chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La chronique de Lydia Arambourg, correspondante de l'Académie des Beaux-Arts, peintre du XXe siècle, est aujourd'hui consacrée à Jacques Despierres.
Le peintre-architecte Jacques Despierres, tout comme son confrère et ami Georges Renner, s'inscrit dans la lignée des peintres de tradition française. Son esprit d'indépendance, un sens naturel de l'harmonie, l'éloquence du regard et un humanisme chaleureux n'ont cessé d'animer celui qui pensait architecture et couleur. Il est né à Saint-Étienne en 1912. Prédisposé à l'étude de l'art par son père, le peintre Séria, homme cultivé, artiste aussi doué pour la peinture que pour la musique et qui encourage ses prédispositions précoces, il est très jeune confronté aux chefs-d'œuvre du musée du Louvre, Chardin, Corot et Delacroix, qui restera un modèle. Inscrit en 1927 et 1928 à l'Académie Colarossi, dont l'enseignement libre va à l'encontre de l'art officiel, il a pour disciple Charles Dufresne. Il reconnaît devoir sa vocation à cette rencontre et être entré sur ses conseils à l'École des Beaux-Arts, dans l'atelier de Lucien Simon, en 1929. Il y fait la connaissance de Renner. L'amitié, celle de Gruber, de Tailleux, de Talcoat, de Breyer, de Lannes, mais surtout celle de Renner, de Humblot et de Gromaire, avec lequel il entretint une correspondance féconde et auquel il succédera en 1962 au poste de chef d'atelier d'art mural à l'École des arts décoratifs, l'amitié effectivement joue un rôle insigne pour cette génération. Acquise aux grands principes de l'art classique, au retour du sujet, il vit dans un climat de liberté qui m'a toujours hanté, a confié Despierres. Dans les galeries, il découvre Cézanne, et toujours dans la continuité d'un art construit, Picasso, Braque, Derain, mais aussi Bonnard. Jacques Villon, qu'il rencontre dans son atelier, le marque tout particulièrement. Héritier du cubisme, le maître de la section d'or lui en révèle la divine harmonie dans une géométrie sensible des formes sans réfréner l'émotion. Recréer la nature par la construction. Sa préoccupation d'un travail solide l'oriente immédiatement vers une recherche d'équilibre alliée à une discipline indéfectible. Son intérêt plastique et visuel est retenu par les principes d'organisation de surface. Grâce à l'architecte Jean-Charles Moreux, il découvre, je cite, « que la surface est à la fois un phénomène concret et abstrait » et prend conscience, à la suite de la lecture du livre de Matila Gicca, L'esthétique des proportions dans la nature et dans les arts, je le cite à nouveau, qu'une certaine géométrie correspond à un certain symbolisme et permet de conduire le spectateur vers une certaine émotion. Autant de certitudes adaptées dans un travail de transmutation entre réalité et conscience pour une vision qui laissera filtrer dans une totale liberté le réel dont l'artiste parviendra à montrer tout le mystère. Dès lors, son parcours devient évident dans une continuité plastique prenant appui sur plusieurs thématiques qui jalonnent son œuvre, comme autant de leitmotivs dans lesquels l'élément de l'eau occupe une place privilégiée. Les bords de la Loire, de la Seine, la baie de Somme, les canaux de Venise, les ports de Hollande et à partir de 1960, la Grèce, d'où son épouse Nelly est originaire. Autant de sujets, autant de canevas sur lesquels s'entrecroisent les fils de chaîne pour tisser la trame d'une composition qui offre son espace à un conflit opposant densité et transparence, arabesque redondante et très épurée, la matière au dessin, la matière absorbée par la couleur à la lumière mobile. L'architecture des villes rejoint l'architecture végétale, celle de la vigne et des jardins, ceux d'amboise et des terrasses luxuriantes de spetzeille, d'hydra, avec leur lumière si différente. Il fait sa première exposition en 1938 chez Jeanne Castel. La même année, il obtient le prix Paul Guillaume. Il expose fidèlement à la Galerie Guyot de 1959 à 1982 et puis à la Galerie Joubert depuis 1988. En 1970, il expose Galerie de Paris et en 1978 à la Galerie Wildenstein à Londres. Il participe à tous les salons, Tuileries, Automne, Comparaison et les peintres témoins de leur temps. Membre fondateur du Salon de mai avec Gaston Deal. En 1945, c'est lui qui a l'idée de baptiser le salon du nom du mois auquel s'est tenu le premier salon. Il y participera jusqu'en 1966. Régulièrement invité dans les expositions de groupe en France et à l'étranger. Il représente la peinture française. Bâtisseur de lumière, tel apparaît Jacques Despierre avec l'expérience de la Grèce. La nature lui propose tous les motifs qui se déclinent à l'infini dans les genres les plus diversifiés. Du paysage aux activités champêtres, du nu aux foules, du cheval à la nature morte, il tente à la synthèse forme-couleur. En humaniste ardent, Despierre décèle dans chaque sujet une permanence humaine. Je considère que la nature n'a pas de valeur sans la présence de l'homme. Ce qui nous attache à notre Europe, c'est l'admirable équilibre d'échelle qui existe entre les paysages et l'homme. Finalement, c'est l'homme qui construit le paysage, nous dit Despierre. Chez lui, les figures sont moissonneurs, tailleurs de pierre, baigneurs. Quand il découvre la patrie d'Homère, Despierre est âgé de 48 ans. La Grèce lui révèle une nouvelle résonance plastique introduite par la lumière dans l'ordre qu'était. Désormais prioritaire dans sa peinture, il la rend visible, matérialise cette lumière non plus par la décomposition du spectre solaire, mais charnellement, par son aveuglante clarté qui construit, découpe avec force les lignes de force, articule les plans en accords ponctuels. Cette dimension lyrique répond au foisonnement exaltant des jardins de Grèce. L'architecte infléchit le cubisme par un lyrisme sensuel. Son écriture est transfigurée. La ligne est saisie dans l'instantanéité d'une émotion. Il pousse son épure jusqu'au jeu de la répétition et de la variation afin d'éprouver l'intériorité de la lumière qui construit. Aucune toile n'étant exécutée sur le motif, Despierre remplit ses carnets de notations rapides au crayon, d'esquisses aquarellées, dans lesquelles la couleur est déterminée par un climat moral, dit-il. Il transpose sur la toile la cadence valérienne, qui est l'héritage grec, le rythme et l'architecture. Présence tutélaire de l'homme, elle arbitre tout son œuvre. Thème privilégié de ce grand humaniste, l'homme architecte hante l'univers plastique de Despierre, peintre architecte. L'outil célèbre la nature, qu'il soit pêcheur, chasseur, vigneron, cultivateur, moissonneur, jardinier. La figure humaine revient dans son œuvre dans un face-à-face avec le monde visible, entre le Val de Loire, berceau de la Pléiade et de la métrique poétique, la Grèce, terre euclidienne, jusqu'aux foules qu'il observe sur le parvis de la pyramide du Louvre et qu'il représente dans les dernières années de sa vie. La haute et noble figure de l'homme relance les grands thèmes emblématiques. Attachée à la terre, elle est soumise au rythme saisonnier des semailles et des moissons, des vendanges, de la pêche et de la chasse, arbitre de la vie sociale et du divertissement. L'universalisme de Despierres, les arts appliqués. L'homme, mesure de toute chose, sa capacité à aborder toutes les disciplines par la maîtrise du métier au service d'un humanisme universel, fait de Despierres un maître du XXe siècle dans la suite immédiate des artistes de la Renaissance. Très jeune, initié à la gravure pour gagner sa vie, il a illustré « Promenades et souvenirs de Gérard de Nerval » pour l'éditeur d'Aragnès en 1930, puis il illustre les œuvres complètes de Giraudoux, de Mauriac et Genevoix dans les années 50-55, paru chez Grasset, ainsi que pour des ouvrages de Paul Morand, Paul Vialard, enfin « La cité de Dieu » de Saint-Augustin en 1975. Entre 1938 et 1981, il mène de pair une œuvre de décorateur en travaillant pour les messageries maritimes et le mobilier national, pour lesquels il réalisera 24 tapisseries et 7 tapis entre 1945 et 1973. Il travaille également pour la manufacture de Sèvres. La monumentalité de son travail se réalise grâce à des commandes de fresques et de mosaïques, comme ces 78 mètres carrés de mosaïques pour la cité administrative d'Orléans en 1981, mais aussi pour des lycées, des CES et des facultés en région parisienne et dans plusieurs régions de France. Pour toutes ces réalisations, la méthode, l'ordre et la rigueur habitent Despierres. Avec le vitrail, il parvient à la synthèse de la lumière et des lignes architectoniques. Entre 1974 et 1980, il réalise les vitraux de Notre-Dame de Liesse. Enfin, il se consacre à l'art exigeant de la médaille, qui demande une grande maîtrise à partir de 1964. Pierre Dehaye, administrateur des monnaies et médailles, organise de prestigieuses expositions à la Monnaie de Paris. Il dit de son grand ami et confrère à l'Académie, auquel il consacre une rétrospective en 1973, « Chez Despierres, la lumière n'est nulle part tant elle est partout. En elle, tout interfère. » Jacques Despierres est élu à l'Institut à l'Académie des Beaux-Arts en 1969. Il décède à Paris en 1995.
Thank you.